Laudetur Jesus Christus.
La France appelle le Royaume-Uni à ouvrir un accès légal à l'immigration et à prendre ses responsabilités après la mort la semaine dernière de 27 migrants en mer. Hier, lors de l'Angélus, le pape a appelé les États à ne pas instrumentaliser cette question. Il a aussi rendu hommage aux Caritas, des mots particulièrement appréciés à Calais par le Secours catholique. Omicron, le nouveau variant de la Covid-19 qui fait peur. Une réunion du G7 doit avoir lieu aujourd'hui pour en parler. Plusieurs pays ont déjà fermé leurs frontières. C'est le cas d'Israël. Les talibans, toujours aussi isolés diplomatiquement, ce week-end, ils ont demandé l'aide des Européens, notamment pour faire fonctionner les aéroports afghans. Élection présidentielle au Honduras, la candidate de gauche, ancienne première dame du pays, revendique la victoire face au dauphin du président sortant.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Les personnes migrantes au centre de la crise entre la France et le Royaume-Uni. Après une réunion de plusieurs pays européens et de la Commission hier à Calais, Paris, ce matin, a appelé Londres à ouvrir un accès légal à l'immigration et à prendre ses responsabilités. C'est un pass comme la situation de migrants bloqués au Bélarus ou de ceux qui tentent de traverser la Méditerranée a fait réagir une nouvelle fois le pape. Hier, après la prière de l'Angélus, il a notamment rendu hommage à toutes celles et ceux qui soulage les difficultés des migrants comme les membres des Caritas. Des paroles qui ont beaucoup réconforté ceux du Secours catholique Caritas France, engagés à Calais, qui ont été particulièrement éprouvés par les derniers événements. Juliette Delaplace, chargée de mission auprès des personnes exilées sur le littoral nord, revient sur l'état d'esprit des migrants et des bénévoles du Secours catholique.
La situation ici, elle est extrêmement difficile. Il faut savoir qu'il y a encore environ 1200 personnes exilées présentes à Calais, parmi lesquelles des hommes, des femmes, des enfants non accompagnés qui viennent du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan. Ces personnes vivent une situation extrêmement difficile au quotidien. Elles sont harcelées sous la forme d'expulsion de campement, de vol de leurs affaires personnelles, de tentes et de duvets, alors que cette nuit, le ressenti était de moins 2 degrés. Il y avait encore une expulsion ce matin qui a donné lieu à du vol d'affaires. Il est difficile d'accéder à la nourriture, à l'eau. Il y a des personnes qui nous disent chaque jour je m'affaiblis un peu plus physiquement, moralement. Il y a des personnes qui nous disent je suis déjà à moitié mort quand je vis ici. Donc c'est vraiment une frontière qui est très violente et cela inquiète beaucoup les personnes exilées parce qu'elles ne peuvent pas rester, mais en même temps elles savent que quand elles tentent des traversées, eh bien celles-ci sont extrêmement dangereuses, qu'elles prennent énormément de risques dont elles ont conscience et donc elles sont inquiètes. Simplement elles n'ont pas le choix parce qu'elles ne sont pas accueillies ici en France et qu'il n'y a pas de voie d'accès légale, malgré nos demandes, vers le Royaume-Uni.
Juliette de la Place du Secours catholique, un entretien retrouvé sur notre site internet www.vaticannews.va. Variant Omicron, le monde prend peur face à cette nouvelle forme de la Covid-19. Plusieurs pays se replient sur eux-mêmes et ferment leurs frontières. L'Australie a suspendu son projet de réouverture de ses frontières aux étudiants et aux travailleurs qualifiés. Le Japon referme également ses portes. Idem pour Israël, où deux cas seulement ont été pour le moment recensés. Les étrangers ne peuvent plus entrer donc, et les Israéliens, trois fois vaccinés, devront eux respecter un isolement de 72 heures à leur arrivée. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
La réouverture des frontières aux étrangers aura duré moins d'un mois. Depuis minuit, les touristes ne peuvent plus entrer en Israël en raison de la propagation du variant Omicron. Retour également de la quarantaine à l'arrivée. Une semaine pour les Israéliens non vaccinés, 72 heures pour ceux qui ont reçu 3 doses. Une cinquantaine de pays africains ont été classés rouges par les autorités sanitaires. Autrement dit, les Israéliens ont interdiction de s'y rendre sous peine d'une forte amende. Le gouvernement a aussi signé un décret d'urgence qui autorise les services de sécurité intérieure à traquer les téléphones portables de personnes entrées en contact avec celles infectées par la nouvelle souche. Pour le moment, ces mesures sont en vigueur pour 2 semaines, mais elles pourraient être étendues si la dangerosité du variant est confirmée. Avec seulement 2 cas enregistrés, la situation reste sous contrôle, mais Israël préfère prévenir que guérir, alors que la fête juive de Hanouka, synonyme de rassemblement, a débuté hier. Lucas de Villepin, Tel Aviv, pour Radio Vatican.
Et les ministres de la Santé du G7 doivent se réunir aujourd'hui pour étudier la situation à la demande du Royaume-Uni qui assure la présidence tournante du groupe. Libanais dans la rue aujourd'hui. Depuis ce matin, des milliers de personnes ont dressé des barrages ou manifestent à travers le pays pour protester contre la détérioration de leurs conditions de vie. Aucune perspective pour le moment ne s'offre aux Libanais, exaspérés par l'inertie de leur classe politique. Plus de 3 mois après la prise du pouvoir par les talibans, l'Afghanistan reste toujours au banc de la communauté internationale. Ce week-end, une délégation du régime islamiste a eu 2 jours de discussion avec l'Union européenne à Doha, au Qatar. Elle a demandé aux Européens de rétablir une présence diplomatique à Kaboul et une assistance technique pour les aéroports du pays. Les précisions d'Emmanuel Derville.
Les 2 jours de dialogue entre diplomates de l'Union européenne et représentants talibans n'ont débouché sur aucune annonce concrète. La délégation talibane a demandé l'assistance technique des Européens pour les aéroports afghans. Pourtant, en août dernier, le Qatar et la Turquie étaient pressentis pour assurer le fonctionnement de celui de Kaboul. Mais aucun accord n'a été officialisé. Et depuis quelques jours, les talibans dialoguent avec les Émirats arabes unis pour gérer cette infrastructure, signe que même des pays comme le Qatar, qui entretiennent des liens anciens avec les talibans, semblent hésiter à approfondir leurs relations bilatérales. Révélateur de l'isolement persistant dans lequel se trouve la théocratie afghane. La communauté internationale exige que l'Afghanistan ne soit plus une base arrière de groupes djihadistes. La méfiance à cet égard reste grande. Les talibans ont demandé à l'UE de rouvrir une représentation diplomatique, mais elle a rétorqué qu'il fallait attendre que la situation sécuritaire s'améliore. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Au Kyrgyzstan, l'opposition dénonce des fraudes lors des législatives d'hier. Le décompte automatique des votes a été marqué par des problèmes techniques. Selon ces résultats quasi définitifs, 6 partis entrent au Parlement, la plupart étant affidés au président Sadir Yaparov. Les observateurs internationaux, chapeautés par l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, doivent rendre leur rapport sur ces élections dans la journée. Le Honduras est en passe de connaître son nouveau président, ou plutôt sa présidente. Pour la première fois, c'est en effet une femme, Xiomara Castro, qui est en passe de diriger le pays. Représentant la gauche, elle a revendiqué dès hier la victoire face au dauphin du président sortant, Olivier Bonnel.
Oui Xavier, je tends la main à mes opposants car je n'ai pas d'ennemis, a lancé dès hier soir Xiomara Castro depuis le quartier général de son parti Libre, peu de temps après avoir revendiqué la victoire. Si les résultats ne sont pas encore définitif, son avance de plus de 20 points sur son adversaire, le candidat de droite Nasri Asfoura, semble irrémédiable. Loin d'être une novice en politique, Xiomara Castro s'était fait connaître en 2009 suite au coup d'État qui avait renversé son mari Manuel Zelaya. Elle avait pris à l'époque la tête des manifestations. Déjà candidate en 2013, elle avait été battue de peu par Juan Orlando Hernandez, le président sortant. Âgée de 62 ans, celle qui revendique un socialisme hondurien démocratique a promis de lutter contre la haine, la corruption, le trafic de drogue ou le crime organisé dans un pays comme nombre de ses voisins qui est très polarisé politiquement. Ses détracteurs lui reprochent la proximité de son mari avec l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. La tâche est grande pour la future présidente hondurienne dans un pays, Xavier, où la moitié des 10 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté.
Olivier Bonnel. Le Parlement indien abroge les lois sur la réforme agricole, loi controversée votée en septembre 2020 et contre lesquelles les petits exploitants agricoles indiens avaient longuement manifesté pendant de longs mois. Le Premier ministre fédéral Narendra Modi avait fini par céder la semaine dernière, ouvrant donc la voie à l'abrogation de ces textes. Non, l'Éthiopie n'a pas attaqué le Soudan ce week-end. Le gouvernement éthiopien nie toute implication dans des combats dans la région d'Al-Fashaga, à la frontière entre Addis Abeba et Khartoum. L'armée soudanaise avait annoncé la mort de plusieurs de ses soldats après l'assaut de groupes armés de milices liés à l'armée éthiopienne, selon elle. Pour le gouvernement éthiopien, les assaillants sont les rebelles du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, actuellement en guerre contre Addis Abeba. On a appris que au moins 4 soldats burkinabés ont été tués hier lors d'une attaque contre un détachement militaire à Solé dans la région du Nord, proche du Mali. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui de sources sécuritaires. Cette attaque est la 3e en 2 semaines contre les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, en proie à la violence djihadiste depuis 2015. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h hors de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.